Bonjour à tous. On va partager quelques minutes et je vais juste vous lire deux, trois versets si vous êtes gentil. On verra. Deux si vous n'êtes pas gentil. On verra. Non, trois, ça serait bien quand même. Alors, je vais vous lire le... Il y en a qui veulent s'incruster dans mon micro. Alors, premier verset qu'on va lire, vous allez voir, il y en a deux qui sont presque les mêmes et le troisième n'a... Enfin, semble n'avoir rien à voir, mais ce sera quand même intéressant. En Colossiens, chapitre 3, au verset 23, il nous est dit une chose. Il nous est dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, etc. etc. » Donc ici, il nous est dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, et comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Et la chose que je trouve assez intéressante ici, c'est qu'il est précisé de faire les choses donc pour le Seigneur, mais pas pour des hommes. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce verset, il nous parle de quoi? De nos motivations. En fait, pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Et nous, quand on analyse nos motivations, en fait, on les analyse de manière horizontale. Je vais me motiver à faire telle ou telle chose ou à obéir à tel ou tel commandement parce que d'un point de vue horizontal entre vous et moi, apparemment c'est bien ou apparemment ça produit des fruits ou peu importe. Et en fait, ce verset-là, il dit pas ça. Il dit analysez vos motivations autrement. Faites tout de bon cœur déjà, mais comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Est-ce que je réalise que tout ce que je suis censé vivre, c'est pour le Seigneur, c'est pas pour les autres? Alors on espère bien qu'il va y avoir, tant soit peu, une répercussion positive sur les autres, mais c'est pas l'objectif. Parce qu'en fait, si l'objectif ce sont les hommes, ce que je vais faire peut être bien, ça peut être de très bonnes intentions, et ça peut être pas du tout ce que Dieu veut que je fasse. C'est peut-être ce que Dieu veut qu'un autre fasse, mais pas moi. Et donc ça, c'est important. On va lire un autre verset qui est un peu du même genre, mais du coup, il est dans un contexte qui est intéressant, c'est 1 Corinthiens 10, 31. Alors, le contexte, c'est les viandes sacrifiées aux idoles, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, etc. etc. Et 1 Corinthiens 10, 31, il nous est dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Verset suivant, ne soyez en scandale ni aux Grecs ni aux Juifs. Soit que vous mangez, soit que vous buvez, là on est vraiment dans quelque chose de basique, manger et boire. Soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, donc n'importe quoi d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que je réalise en fait que la vie que je vis ici, alors que je suis devenu enfant de Dieu, la question de cette vie, c'est Dieu, c'est pas moi en fait. C'est uniquement Dieu. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui mais attends, on vit avec des gens, il faut en tenir compte, etc. Bien sûr, bien sûr. Mais en termes de motivation et en termes d'essence, etc., est-ce que je réalise que tout est pour la gloire de Dieu en fait, et tout devrait être pour la gloire de Dieu en tout cas? Et du coup, je peux me poser mes questions un peu différemment dans ma vie. Au lieu de me poser la question, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est bien ce que je pense? Est-ce que c'est bien ce que je dis? Des fois, c'est bien de se poser la question, mais en même temps, même si c'est bien, c'est peut-être pas l'essentiel. L'essentiel, c'est est-ce que ce que je pense, c'est à la gloire de Dieu? Est-ce que ce que je dis, ça glorifie Dieu? Est-ce que ce que je fais, ça glorifie Dieu? On va le prendre encore autrement. Je prends toutes les choses à l'envers aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu me demande? Vous savez, là où c'est important, c'est qu'en fait, nous, on essaye de vivre notre vie en n'ayant besoin de personne. Donc, je lis ma Bible pour ne pas avoir besoin de Dieu. Je lis ma Bible pour ne pas avoir besoin de Dieu. Je lis ma Bible pour savoir ce qu'il y a à faire. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que je devrais dire ma Bible. Je lis ma Bible pour être émerveillé par un Dieu qui est au-dessus de tout. Et après, ça me donne une motivation pour vivre ce que j'ai à vivre, une motivation pour obéir à certaines choses qui sont écrites et qui ne m'arrangent pas toujours. Mais la motivation, ce n'est pas « c'est bien ». La motivation, c'est lui. Et tant que la motivation, ce n'est pas lui, ça pourra être bien, mais ça ne sera peut-être pas le plan de Dieu. Et tout le monde à l'extérieur pourra dire « c'est bien ». C'est très bien. Mais peut-être que lui ne le dit pas que c'est très bien. Et là est le problème. Je vous ai dit trois versets. Bon, je vous en donne quatre alors. On va en lire un autre. Ok, d'abord, de celui qui est prévu. Ésaïe 35, un verset qui est très connu. Qui semble avoir absolument rien à voir avec ce qu'on vient de dire jusque-là, mais vous allez voir là où je vais en venir. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je trouve que ce verset, il est intéressant, parce que si on se l'applique, il nous est parlé de tranquillité, de repos, de confiance, de calme. Et apparemment, c'est dans tout cela qu'on va trouver et le salut et la force de vivre ce que nous avons à vivre. Donc je le sors quand même de son contexte, parce que là, ça parle d'Israël, et qui d'ailleurs n'est pas du tout dans ce repos, et qui cherche des aides pour la guerre là où ils ne doivent pas en chercher. Mais appliqué à nous, en tout cas, il y a cette idée effectivement de tranquillité, de repos, mais c'est intéressant parce que le premier mot, c'est dans la tranquillité et le repos, c'est dans la tranquillité. En fait, ce n'est pas exactement ça qui est écrit en hébreu. Dans l'hébreu, il est écrit, c'est dans le retour. C'est dans le retour et le repos que sera votre salut. Ce qui signifie que pour avoir cette tranquillité, ce repos, etc., je vais le trouver dans un constant retour vers Dieu. Et peut-être que j'ai l'impression de ne pas m'être éloigné. Peut-être que j'ai même une argumentation qui peut aller pour expliquer que je ne me suis pas éloigné. Peut-être que justement mes œuvres montrent que je ne me suis pas éloigné. Mais est-ce que je connais mon cœur? Peut-être pas tout à fait. Et donc du coup, voilà, je dirais, ce que je veux dire, c'est que chercher en permanence à se tourner vers Dieu, quel que soit l'état d'origine où je suis, ça peut être que bon en fait. Et donc, quand je suis au fond du gouffre, j'ai besoin de me tourner vers Dieu. Et quand ça semble aller bien, sachons que j'ai besoin de me tourner vers Dieu. Parce qu'en fait, c'est lui qui doit faire les choses, c'est lui qui doit vivre à travers moi. Et ce n'est pas moi qui me suis mis en... Vous savez, les avions, vous avez le pilote, il prend les manettes, il démarre, on décolle. Et puis, quand il décolle bien et quand il atterrit bien, on applaudit. Dans l'avion, quoi, dans les places, les gens, ils applaudissent. Et entre les deux, il met pilote automatique. Eh bien, sachons que Dieu n'a pas cette fonction-là pour nous, ici-bas. Il n'y a pas de pilote automatique. Il faudra toujours être aux commandes. Et en fait, être aux commandes, c'est se tourner en permanence vers lui. C'est se tourner en permanence vers lui. Qu'on aille bien ou qu'on aille moins bien. Et je vais vous laisser un dernier verset, très courtement, que vous connaissez aussi. Je ne me suis pas trop cassé la tête, je suis allé chercher des versets qu'on connaît, comme ça c'est plus facile. En Philippiens 4, il nous dit quelque chose qui est très compliqué en fait. Très très compliqué. Voilà, au verset 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Mais cette première liste des choses que nous devons penser, ce n'est pas compliqué. Il y a deux attitudes en face de cette liste. Soit je ferme la Bible, et je dis « bon ». C'est foutu. C'est bon. Je veux dire, je ne peux pas tout le temps avoir des pensées qui sont ainsi. Et quand je me regarde dans la glace, quand je m'évalue, quand je regarde ma journée, je regarde qu'est-ce qui traverse ma tête, eh ben, je me dis, voilà, je suis hors-jeu par rapport à ce verset-là, donc c'est foutu. Ou alors, et vous savez, je me dis c'est foutu, vous savez pourquoi ? Parce que je me dis, c'est l'objectif. L'objectif, c'est que je pense comme ça, tout le temps. Ou alors, je prends les choses autrement et je dis, en fait, ça, c'est pas un objectif, c'est une direction. Et si c'est une direction, c'est un guide qui me permet de revenir en permanence dans la bonne position. Vous savez, on va dire la différence entre un bateau et un train. Vous allez dire, ce matin, il nous dit n'importe quoi, lui. La différence entre un bateau et un train, n'importe quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris ce matin au petit déjeuner, mais le café ne devait pas être bon. Et en fait, la différence entre un bateau et un train... Un train, ce n'est pas compliqué, les enfants. Un train, c'est ce que nous voulons tous vivre. Je suis assis, on est sur des rails, ça va tout droit ou ça tourne, on s'en fiche. De toute façon, on n'a pas besoin de tenir la manette. Ça va tout seul et c'est régulier. Voilà. Ça, c'est, j'ai lu la Bible, j'ai compris, je suis sur des rails, Dieu, on verra plus tard, et ça avance. Ça, c'est pas la vie chrétienne, mais c'est celle qu'on voudrait vivre. Et l'autre manière de vivre la vie chrétienne, c'est un bateau. Et le bateau, qu'est-ce qu'il fait ? Le bateau, il a un cap. Et en permanence, il rectifie son cap. Il rectifie son cap. Vous voyez ? Et vous savez quoi ? Et il va arriver à bon port. Mais c'est sûr que ça ne sera pas des rails. C'est sûr qu'il y a des vagues qui vont bouger, c'est sûr qu'il va y avoir du vent, c'est sûr qu'il va y avoir des tempêtes. C'est sûr qu'il va falloir en permanence rectifier le cap. Et vous savez quoi ? On peut se sentir pas bien à l'intérieur et se dire « je suis nul, je suis hors-jeu, la vie chrétienne, c'est pas pour moi », simplement parce qu'on s'aperçoit qu'on est en permanence en train de rectifier le cap. Parce que je suis en permanence en train de devoir me repentir et me relever parce que c'était encore pas ça. Mais vous savez quoi ? Ça, c'est pas un constat d'échec. Ça, c'est la vie normale d'un chrétien. C'est tout. Et si je m'imagine une vie chrétienne autre, je crois que la vie chrétienne, c'est un train. Ben, désolé, la SNCF n'a pas d'action dans l'entreprise Dieu. Et donc, ce n'est pas un train. C'est plutôt un bateau. Et on a besoin de voir notre vie comme ça, parce que sinon, nous allons avoir beaucoup de sujets de déception dans notre vie, à notre égard. Et Dieu nous demande de voir les choses de manière très différente. Et nous aurons des sujets de déception, pas que nous tomberons de la falaise. Mais dans le quotidien, si on est un petit peu lucide, on va dire, je suis vraiment tout le temps à côté du compte. Hein. Ce péché-là, il ne date pas d'hier. Hein. Il ne date pas d'hier. Hein. Etc., etc. Ou alors, je regarde le but, l'objectif, la ligne d'arrivée, hein, comme on a entendu ce matin, voilà, Gilbert qui a franchi la ligne d'arrivée. Et en fait, je vois la vie comme ça, c'est qu'un jour, je vais franchir cette ligne d'arrivée. Ça, c'est le but. Et en attendant, tout le reste, là, ce livre, c'est la direction. C'est que la direction, c'est que les moyennes. C'est pas autre chose. C'est pas le trophée à la fin. C'est que les moyens et la direction. Voilà, je voulais vous laisser avec ces quelques mots ce matin. Amen.